Survint Jean, nous dit ce texte, celui qui baptisait dans le désert et proclamait un baptême de changement radical pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Il proclamait « Il vient derrière moi celui qui est plus puissant que moi, et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, de Galilée, et il reçut de Jean le baptême dans le Jourdain. Dès qu'il remonta de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre vers lui comme une colombe, et une voix survint des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Et dans le livre de la Genèse, chapitre 1er aussi, il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. » Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et ce qui a été vrai le premier jour s'est perpétué dès lors. Et même si en cette saison maintenant, le soir tombe de plus en plus tôt alors que le jour se lève de plus en plus tard, eh bien nous vivons toujours dans cette saison. Alors qu'au jardin, peu de choses peuvent encore pousser à cause du froid et de la diminution de la lumière, vient le temps de nettoyer ce qui est resté et ce qui n'a plus vraiment d'utilité dans le jardin. Et bientôt viendra le temps de planter ceci ou cela et de préparer le terrain en l'aérant un peu pour la saison nouvelle. On pourra aussi recueillir des graines pour tenter sa chance en vue d'une nouvelle saison de plantation lorsque le printemps arrivera. Mais les jardiniers amateurs comme moi ne peuvent pas en croire leurs yeux. Je sais que cela peut paraître complètement idiot, peut-être, si vous êtes des jardiniers expérimentés, ou mieux, des agriculteurs. Mais on est submergé par les graines qui sont en si grand nombre. Les premières années où l'on tente un jardin, on essaie de les rassembler tout en imaginant le résultat que cela pourra donner quand elles auront germé. Mais c'est impossible, il y en a trop. Et puis elles vous échappent, tellement elles sont minuscules. Et certaines se ressèment toutes seules. On récupère des plants de tomates dans le compost. Et il y a une fleur, au moins, qui prolifère d'année en année, et peut-être dans votre vie aussi quelquefois, c'est le souci. 2-3 plants la première année et un jardin jaune-orangé la deuxième. Ceux qui ont appris à ne jamais gaspiller quoi que ce soit ont du mal certainement à laisser toutes ces graines sur le sol. Et je repense à l'histoire d'un homme en Ardèche qui récupérait tout. Il est décédé maintenant, il y a quelques années. Il récupérait tout, jusqu'au bout de ficelle qu'il triait selon leur longueur. Et donc, dans cette boîte-là, se trouvaient les ficelles de 10 à 15 cm de long. Dans celle-là, celle entre 5 et 10 cm de long. Et dans cette autre boîte-là, au milieu, d'autres ficelles encore. Tellement petites, semble-t-il, que sur l'étiquette, on pouvait lire bout de ficelle ne pouvant servir à rien. Mais il les gardait. Jamais il n'aurait jeté quelque chose. Il les gardait. Nos graines sur le sol, pour revenir à elles, évidemment, ne grandiront pas toutes à l'endroit où elles sont tombées, beaucoup trop nombreuses et pas assez d'espace pour croître. Les plantes sont, pourrait-on dire, négligentes dans leur abondance et semblent gaspiller leur potentiel, tant et mieux. Autant de graines dispersées dans le jardin, certaines enterrées, quelques-unes dévorées, j'imagine, l'avenir d'une graine est caché à nos yeux. Qui sait où elles vont et ce qu'elles font? Et vous voyez, le baptême de Jésus manifeste là, dans les textes qu'on a lus, en particulier donc celui de Marc, manifeste son humanité. Il est comme la plante dans mon jardin produisant tant de semences. Ces graines contiennent la vie. Elles contribuent à la vie. Et d'une certaine manière, elles passent inaperçues. Et mon message est simple. C'est que le moment du baptême, c'est la vie. Et donc la vie qui vient sur la vie. Lorsque vous avez été baptisé, vous entrez symboliquement dans le baptême de Jésus et dans la vie de Jésus, surtout. L'évangile de Marc connecte étroitement le baptême et la vie de Jésus. Marc commence son histoire avec le baptême de Jésus, un baptême avec ses spécificités propres. Mais il commence sur ces mots-là, Marc chapitre 1. Le baptême est le contexte de la vie de Jésus. Le reste de ses jours sur la terre forme la suite logique de son baptême. Bien, c'est l'histoire de nos baptêmes aussi. Bien sûr, notre baptême est arrivé à un moment précis, en un lieu précis, mais il marque aussi le début d'une vie qui est la conséquence de notre engagement par le baptême. Après le baptême, notre vie entière devient le débordement de ces eaux baptismales qui est l'effusion de l'Esprit-Saint. Le baptême, c'est la façon dont nous lions nos vies à la vie de Jésus. Nous soumettons nos vies à la sienne. Et nous nous engageons à un mode de vie qui donne la véritable vie, ou qui est la véritable vie, qui illumine la vie, qui multiplie la vie, comme Jésus l'a fait. Alors certains dans les assemblées prient pendant des années pour que des personnes se fassent enfin baptiser. Et quand elles sont effectivement baptisées, eh bien plus personne ne prie pour elles. Mais le baptême, ce n'est pas un vœu satisfait, ce n'est pas l'histoire d'une journée. Ce n'est pas une signature dans un registre d'église empoussiéré. C'est un événement rempli de symboles divers. C'est une déclaration publique. Moi, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est un engagement avec le Seigneur. C'est donc un point de repère auquel le baptisé va pouvoir se référer pendant toute sa vie, je le disais déjà. Toute la vie, c'est donc le baptême. Nous sommes parfois submergés par l'obscurité autour de nous, ou même par le chaos dans notre vie, qui provoque le désespoir. Mais nous renaissons toujours à une vie nouvelle à travers tout cela. Toute la vie, c'est le baptême. Cela signifie que chaque moment douloureux qui ressemble à une petite mort dans nos vies, c'est aussi le moment de l'effusion de la vie nouvelle. C'est le débordement de ces eaux du baptême de Jésus, le mouvement de l'Esprit-Saint. C'est tout cela aussi que ça signifie. Que ça implique. Toute la vie, c'est le baptême. Ça signifie que Dieu crée toujours de nouvelles possibilités à partir même de ce qui nous semble être une impasse. C'est la voie de notre baptême. Nous sommes toujours au point de départ d'une nouvelle vie et peu importe le genre de problème dans lequel nous sommes plongés, pour ainsi dire. Cette logique de la vie nouvelle, elle est là au début. Elle est là dans l'histoire de la création. Dans Genèse 1, la création, c'est comme une histoire de baptême. Tous les baptêmes font écho à l'histoire du premier chapitre de la Genèse, je pense. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme, tandis que l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. L'Esprit de Dieu plane à la surface de l'obscurité, sur les eaux informes. Et de ce chaos, de ce vide, Dieu crée la vie. Quand la vie semble impossible, Dieu fait quelque chose de nouveau et de merveilleux. Et c'est notre histoire aussi. Genèse chapitre 1 raconte notre création, la façon dont Dieu nous crée et nous recrée, Dieu est encore là, au-dessus du chaos de notre monde et de notre vie, et il fait toujours et à nouveau œuvre de création. Dieu est encore là, nous baptisant, créant de nouveaux moyens pour une nouvelle vie, alors que nous ne voyons peut-être que des impasses devant nous, et peut-être même les profondeurs de la mort. Pourquoi ne pas considérer Genèse 1 comme étant davantage que le récit chronologique du début de l'histoire, de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps et qui ne concerne pas vraiment notre vie aujourd'hui? La tentation, c'est de lire Genèse 1 comme n'importe quel autre livre et d'en obtenir une idée sur la façon dont se sont déroulés les premiers événements, et puis de retourner à notre vie, faire autre chose, penser à autre chose. Mais ça ne marche pas comme ça. Genèse, c'est notre histoire, à vous, à moi, à nous. Notre monde est ténèbre. Votre vie n'a pas de sens, mais le souffle de Dieu rend possible ce qui est inimaginable. Dieu voit notre obscurité et dit que la lumière soit. Voilà notre Dieu, un Dieu qui baptise, qui insuffle la vie, qui crée toujours de nouveaux commencements, alors que nous sommes dans les ténèbres et le désespoir, et qui donne et qui redonne sans cesse du sens à notre vie si nous nous confions en lui, si nous nous tournons vers lui. Et je suis justement tenté de penser à Dieu comme un jardinier dans ce contexte. Dieu qui plante un jardin dans le livre de la Genèse. Puis, dans l'évangile de Jean, nous avons Jésus ressuscité qui apparaît à Marie-Madeleine comme jardinier. Cette comparaison n'est peut-être pas vaine. Donc je veux que nous pensions à Dieu comme... le roi dit nous voulons. Que nous pensions à Dieu comme à un de ces jardiniers qui tire fierté de son jardin. Vous avez en mémoire peut-être tel ou tel jardinier qui ne parle de rien d'autre que de son jardin, de ce qui est sur le point de germer. Bien sûr, il se plaint des mauvaises herbes qui ne cessent de s'étendre malgré les tentatives multiples de les déraciner. Et puis il vous amène soudainement à la serre où il a récemment planté quelques graines. Eh bien, vous ne pouvez commencer à comprendre ce jardinier qu'une fois que vous l'avez laissé vous montrer son jardin. Pour vous, ça n'a peut-être pas de sens de parler de ça pendant des lustres, des années-lumière, mais la vie du jardinier est tellement liée à son jardin qu'il n'est pas possible de penser à cette personne autrement que comme jardinier. Et alors, c'est ce que Dieu est. Dieu est ce genre de jardinier, pas un amateur comme moi qui passe une heure à tirer des mauvaises herbes et deux à jouer dans la terre. Non, la vie de Dieu est dédiée à la jardinerie. Ce n'est pas un hobby pour lui. Dieu donne effectivement sa vie au jardin. C'est ce que la vie, la mort et la résurrection de Jésus signifient. En Jésus, la vie de Dieu donne la vie à toute la vie. Le jardinier et le jardin sont intimement liés l'un à l'autre. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Le jardin montre l'amour et les soins que lui apporte le jardinier, l'amour étant la nourriture des plantes. Dieu veut que son jardin s'épanouisse, qu'il s'anime, qu'il vive pleinement. Et nous sommes le jardin de Dieu. Dieu est comme le jardinier, celui dont la vie est complètement enveloppée dans la croissance de son jardin. La gloire de Dieu, c'est vous et moi. Et c'est une bonne nouvelle. Dieu est un jardinier qui sème toujours la vie nouvelle, même quand les nôtres semblent s'être heurtés au fond d'une impasse. Mais nous nous souvenons que toute la vie, c'est un peu comme le baptême. Dieu fait toujours éclore la vie des profondeurs de l'obscurité. Que la lumière soit, a dit Dieu. Et cette bonne nouvelle donne naissance à toutes sortes de choix dans nos vies. La bonne nouvelle de Dieu apporte la liberté. Nous n'avons plus à vivre comme si nous n'avions pas toutes les options devant nous. Nous sommes libres de croire à l'impossible. Nous sommes libres de croire que Dieu peut apporter la vie. Dieu rend la vie possible. Dieu nous permet d'être pleinement vivants. C'est ce que signifie croire au baptême. C'est ce qui nous pousse à nous faire baptiser, à joindre notre vie à la vie de Jésus et à choisir la vie tout au long du chemin en acceptant la grâce qui sauve, qui fait grandir, qui fait pousser ou repousser. Le baptême de Jésus donne du sens à nos baptêmes. Jésus, c'est cette seule graine dans mon jardin qui a grandi au printemps dernier et qui est devenue une plante produisant des graines innombrables. Et nous sommes les semences de la vie à notre tour, nous sommes dispersés par le vent et nous produisons la vie là où nous atterrissons. Et ce vent qui nous disperse, c'est l'Esprit Saint qui nous fait porter la vie nouvelle dans le monde. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu as préparé d'avance pour nous dans ta création. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Nous te rendons grâce parce que tu es aujourd'hui avec nous et parce que lorsque nous sommes dans l'obscurité, tu es là qui vient nous dire que la lumière soit et la lumière jaillit à nouveau en nous. Alors nous ne perdons pas courage parce que nous savons que tu es avec toi pour toujours. Amen.